Le bistrot des ethnologues. Mardi 5 janvier 2010, l'ARCE, l'atelier de recherche comparative en ethnologie, recevait Frédéric Sommad au Baloir. Ce professeur à l'Université de Provence est venu nous présenter son dernier ouvrage intitulé Machati, les transformations mexicaines des jeux taurins. Frédéric Sommad nous en fait l'exposé dans ce bistrot des ethnologues.
Monter un taureau, c'est à la fois, du point de vue de l'indigène et du métis, dévalorisé, marginalisé dans cette société de caste, c'est une manière de dérision de la prétention du caballero espagnol. En même temps, c'est la confusion du taureau et du cheval. C'est considérer le taureau comme un cheval. Et c'est une forme qui est presque absurde, parce que c'est un jeu qui n'a aucun sens. Comment dirais-je ? Autant le lasso, on voit qu'il vient d'une pratique utilitaire, autant monter le taureau, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit, ça conduit même pas, comme la corrida espagnole, on pourrait dire, bon, il y a la tradition des abattoirs. C'est vrai que les toreros, la tradition du torero à pied à Séville vient en grande partie des abattoirs. Donc c'était au départ, si vous voulez, l'action de torer un taureau, d'affaiblir un taureau pour pouvoir le tuer, avait une origine utilitaire. Là, il n'y a aucun utilitarisme là-dedans, c'est purement gratuit. Alors ma collègue Ana Cristina Ramirez Barreto me dit oui, non, mais elle me dit non, c'est qu'en fait, comme il mettait les taureaux à terre avec le lasso, eh bien, l'occasion était trop belle pour monter dessus. À mon avis, c'est un peu court, parce que les Andalous, les vaches Andalous, ils faisaient exactement pareil avec les piques. Quand il s'agissait de marquer, de castrer ou de tuer du bétail, dans les grands latifones de Cadiz, de Jerez ou de Séville, eh bien, il les poursuivait avec la garrocha, avec la pique, et d'un coup de pique sur la croupe, il renversait l'animal, qui était ensuite saisi, et on faisait ce qu'on voulait avec, enfin, le maîtriser comme ça. Tandis qu'au Mexique, eh bien, il monte dessus. Donc, bon, évidemment, on peut donner les interprétations qu'on veut, mais il me semble que c'est une interprétation qui vaut la peine. En tout cas, mon idée, c'est que ça s'est fait ici, enfin au Mexique, en Amérique, ça ne s'est pas fait en Espagne. Donc, il y avait une raison, et je crois que cette raison, n'en déplaise aux postmodernisants, cette raison est culturelle. Alors, le problème qu'on peut se poser, c'est de dire, ouais, bon, mais enfin, c'est bien joli de parler des taureaux et des chevaux et tout ça, c'est un peu obsessionnel, tout ça, bon, mais que ça a à voir avec les Indiens, parce que les Indiens ont affaire de ça, c'est pas les Indiens, c'est pas les vrais Indiens, ça, c'est les pauvres Indiens qui sont métissés, et ils sont, comme dirais-je, en quelque sorte souillés, hein, par l'influence européenne, et c'est plus des vrais Indiens, donc à partir de moi-là. Donc, est-ce que les Indiens existent quand tout est métissé? Est-ce que les Indiens existent quand ils font de la tauromachie, quand ils font de l'élevage, quand ils montent à cheval, voilà. Alors le problème, c'est quand on pose des problèmes en ce terme-là, c'est qu'on est dans l'essentialisme. Et en étant dans l'essentialisme, on peut faire l'histoire, en quelque sorte, de la Nouvelle-Espagne, du Mexique, à partir des idéologies essentialistes. D'abord, le premier essentialisme, c'est évidemment le délire de la bureaucratie de la Nouvelle-Espagne, les castes dont je vous ai parlé, hein, à partir du moment où les Espagnols arrivent, c'est la grande originalité d'ailleurs des colonisations ibériques, c'est que les colonisations ibériques, sous l'égide il faut le dire, hein, du clergé catholique, ces colonisations prônent le métissage. Enfin, se base sur le métissage, favorise ou n'empêche pas, ou favorise, oui, ou laisse libre cours au métissage. ce qui va être très différent avec les colonisations protestantes d'Amérique du Nord, où là, au contraire, il va y avoir vraiment une opprobre hein, jetée sur le métissage comme quelque chose d'absolument abominable. Alors en même temps, les Espagnols sont embêtés avec cette histoire de métissage, parce qu'avec l'idéologie puriste hispanique, l'Espagne du XVIe siècle, c'est pas très rigolo quand même. Hein. C'est l'Inquisition, c'est l'idéologie de la pureté de sang, hein, c'est les certificats de pureté de sang qu'il fallait fournir quand on était soupçonné de judéité, que donc il fallait montrer qu'on n'était pas juif. Et qu'on avait un certificat. Donc l'obsession de la pureté de sang, hein, l'idéologie du sang en Espagne, c'est pareil. En Portugal, c'est pareil. La caste, c'est c'est une idéologie puriste. Donc c'est quand même un problème. Quand même un problème. Donc si les moines franciscains, dominicains et jésuites défendent les Indiens, empêchent la destruction complète des Indes, Las Casas et tout ça, donc d'une certaine façon défendent le métissage parce qu'ils disent les Indiens sont comme nous, sont nos frères, ce sont des créatures de Dieu, ce sont des humains. Simplement, ils ont été trompés par le diable. Il faut leur apporter la bonne parole pour leur faire comprendre ce que c'est que la vraie religion, que la vraie spiritualité, tout ça. Mais à partir de ce moment-là, on admet que, il faut les aider, donc il faut les épouser. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a une ouverture au métissage. Mais ça gêne l'idéologie puriste hispanique. Donc, on va développer tout un système de caste qui relevait... Le système des castes en Nouvelle-Espagne d'un processus d'animalisation. Surtout, plus on allait vers les castes basses. Vous aviez dans les castes hautes l'espagnol, celui qui venait de la colonie, le créole, le criollo, c'était le fils d'espagnol né au Mexique. Et alors, ce terme de créole, très important, on n'en a pas du tout d'ailleurs la même acception en France. En France et dans les Antilles, le créole, c'est plutôt le métis. Au Mexique, c'est pas du tout, c'est le blanc mexicain, le blanc né au Mexique. Criollo, ça vient du portugais, criollo, qui veut dire c'est l'esclave élevé dans la maison, né et élevé dans la maison. Donc c'est le fils d'esclave. Né dans la maison. Il y a donc cette idée d'étranger rapporté, inférieur, né dans la maison. Bon, donc le créole, fils de Mexicain, de fils d'Espagnol, va se trouver dans une catégorie inférieure, l'Espagnol né en Espagne. C'est la plus grande erreur ils en ont fait plein, mais alors celle-là, du Mexique colonial. C'est d'assigner un statut d'infériorité aux descendants des Espagnols venus d'Espagne. Et puis alors, plus on va vers le bas, et plus on a des métaphores des métaphores animalières pour décrire les catégories métisses, les catégories intermédiaires. Plus on est métissé, plus on est animal, en quelque sorte. Les lobos, les loups, les coyotes, les bossals. Les bossals, c'est de l'animal qui vient de la jungle. Le bossal, c'est le... C'est l'esclave qui est fraîchement débarqué, qui vient directement de la jungle. Hein. Le mulâtre, sambaigo, etc. Toute une série de catégories comme ça qui sont toujours, dont on trouve d'ailleurs des équivalents dans les robes des chevaux ou des taureaux, les robes plus ou moins fauves, etc. Bon, voilà. Et par opposition, les catégories pures, il y en a deux, c'est l'espagnol et l'indien. Voilà. Alors, on voit que l'animalisation de la société mexicaine, enfin novo-hispanique, renvoie à l'élevage et à la métaphore, en même temps, à la métaphore que l'élevage extensif espagnol, ibérique, hein, que cet élevage-là déploie avec les concepts de bravoure et de noblesse. C'est-à-dire que dans l'élevage extensif en Andalousie, se développe l'idée que l'animal le taureau qui va servir dans les corridas chevaleresques du 16e, 17e siècle, hein, où c'est la noblesse qui, dans les fêtes royales, la noblesse, les jeunes cavaliers de la noblesse qui vont combattre à cheval les taureaux comme une démonstration de force militaire. Hein. Et le cheval et le taureau sont associés à la noblesse. Le taureau, il paie sur les grands domaines, on va le chercher dans les espaces sauvages, qui sont des espaces réservés à la chasse à courre des nobles. Donc c'est vraiment les grands espaces associés à la noblesse, par opposition à la petite paysannerie. Hein. Et donc c'est tout aussi cet imaginaire-là qui est associé à certains animaux, au cheval, au taureau, et à l'idée de noblesse. Par opposition... Deux extrêmes, par opposition, je vous ai parlé de la petite paysannerie. La petite paysannerie, c'est la mansedumbre, hein, c'est-à-dire la domesticité qui est assignée au bœuf domestique, à la vache laitière, etc., et à la petite parcelle paysanne, la petite parcelle clôturée, les petites terres, les minifundiums, hein, c'est la mansedumbre. Et au contraire, la fieresse qui renvoie à l'extension infinie du campo et de la terre non clôturée où on trouve les animaux sauvages sur lesquels les nobles prétendent avoir un privilège à partir de la chasse à courre et de la tauromachie lorsqu'elle est représentée sur la scène des villes en fait. Alors ce qui va se passer finalement en Amérique, dans toute l'Amérique, c'est que c'est les Indiens qui vont intercéder dans cet espace assigné à la noblesse, dans cet espace sauvage où se trouvent les animaux sauvages, où se trouvent le taureau et le cheval sauvages qui paissent en liberté, qui marronnent, qui se reproduisent en liberté, etc. Et les Indiens vont interférer, ils vont, parce que on a des Indiens chasseurs qui d'abord sont sur leur pays, il faut bien le dire, et puis qui vont intégrer ces animaux, le taureau et le cheval, qui vont les intégrer dans leur, à la fois dans leur cosmogonie et dans leur, dans leur, si je puis dire, cheptel sauvage, hein, dans leur proie. Donc en réalité, si l'Indien se voit assigné aux castes basses, puisqu'on lui refuse l'idée de monter à cheval, mais en réalité, la réalité, c'est que on a besoin d'une part des Indiens domestiques, des Indios bravos, de la petite paysannerie. Là. On a besoin dans le centre du Mexique pour conduire les troupeaux. Et puis lui-même, l'Indien, a besoin de l'élevage extensif pour prolonger son propre univers cinégétique et rituel. C'est le cas dans le nord et l'ouest du Mexique où ces Indiens, donc nomades et chasseurs, vont intégrer le cheval et le taureau dans leur proie de choix. Alors, donc la société des castes. Et le métissage en même temps. Alors le métissage va donner lieu à une idéologie nationaliste, une idéologie indépendantiste, l'idéologie des créoles, justement. Quand je vous disais que c'était la grande erreur de la vice-royauté espagnole d'avoir condamné les créoles, c'est-à-dire les blancs nés au Mexique, à une place secondaire par rapport aux Espagnols qui avaient des privilèges sur eux, alors que c'était leurs parents, grave erreur, c'est qu'ils vont évidemment nourrir une idéologie indépendantiste. Et contre la tyrannie de l'Espagnol, ils vont affirmer la généralité du métissage. C'est-à-dire, ils vont, ce discours-là, l'idéologie créole du XVIIIe siècle, influencée par les lectures des Lumières et tout ça, c'est-à-dire, nous sommes Mexicains et nous sommes tous métis. Hein. Nous ne sommes pas Espagnols. Nous sommes indigènes, au sens, nous sommes d'ici, nous sommes des Mexicains, nous sommes de la nation mexicaine. Ça nous rattache à la terre américaine et ça nous donne des droits sur les Espagnols qui sont des intrus et qui sont indésirables. Et donc c'est en quelque sorte un retournement métis de l'essentialisme racial hispanique. C'est-à-dire nous sommes la race mexicaine, la raza, hein. Il y a une idéologie de la race mexicaine. Mais c'est un concept de la race qui renverse le concept puriste de la race hispanique. C'est-à-dire, c'est une race métisse. C'est complètement contradictoire dans l'idéologie hispanique. C'est une race qui est le produit de l'agglomération des castes, de cette société des castes, de ce qu'il y a de plus bas. Mais là où c'est quand même intéressant, même si ça fait froid dans le dos, c'est que nous sommes tous des Mexicains, nous sommes tous des Indiens, nous descendons tous de Moctezuma, en fait, c'est ce discours indépendantiste, nous ne sommes pas espagnols, mais le noir, il va disparaître de cette construction idéologique. Alors que quand même, les ethnies africaines constituent la troisième composante de la population mexicaine. Et en tant qu'esclaves, évidemment, ils vont être plutôt mis de côté par l'idéologie indépendantiste. C'est-à-dire, il y a l'idéologie indépendantiste, c'est la race mexicaine s'est forgée dans un creuset où on a mélangé la noblesse des Indiens avec la noblesse des Espagnols et ça a donné, nous, les Mexicains. Les Noirs, on en parle plus. Alors, ce discours qui exalte le métissage, qui est un discours en fait à dominante blanche, qui sont des discours des classes lettrées blanches, et qui, vous voyez, des gens qui sont tout à fait blancs et qui disent qu'ils descendent de Moctezuma, ça prête un peu à rien, mais surtout qui exclut le noir ou alors qui stigmatise complètement le noir, comme le jésuite Clavijero, qui est un des théoriciens de l'indépendantisme du 18e et qui, au moment où il parle des noirs, dit qu'il n'y a rien de plus affreux que des êtres avec. Marqué, Voltaire dit à peu près la même chose, avec des gens qui ont des poils de mouton sur la tête, qui fait des trucs abominables. Mais voilà, ça se joue entre les Blancs et les Indiens. C'est vraiment ça. Parce qu'il s'agit, principalement pour ces Blancs, de se rattacher à la terre américaine. Donc les Noirs sont considérés finalement comme des intrus, au même titre que les Espagnols, mais en pire parce que ce sont des esclaves et donc ils sont encore plus méprisables de leur point de vue. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette élite blanche va reproduire la métaphore hispanique du bétail, c'est-à-dire associer le bétail et les hommes, la noblesse du bétail, enfin les taureaux, les chevaux, mais en brouillant les catégories puristes d'origine espagnole. On va exalter l'américanité du bétail, en quelque sorte. Donc il faut, si vous voulez, que ce bétail, pour qu'il soit valorisé, il faut qu'il soit américain. Et donc c'est bien le bétail créole, c'est-à-dire le bétail né en Amérique, le bétail qui s'est ensauvagé, le bétail qui est issu de la terre américaine, qui va devenir valorisé et valorisé à travers une série de croisements. Alors dans le sport taurin tauromachique de l'élite mexicaine, qui est la charreada, donc je traite dans ce livre-là, qui est considéré aujourd'hui comme le sport national mexicain, qui se formalise au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, à partir des pratiques des vachers, donc des vachers métis et indiens des grands domaines, et qui va devenir, paradoxalement, un sport d'élite, qui va être repris après la révolution mexicaine des années 10, qui va être repris dans les villes comme un sport d'élite par, justement, l'aristocratie créole mexicaine qui a été dépossédée d'une partie de ses terres par la révolution sociale et qui va reproduire son idéal de grands espaces, d'élevage extensif à travers le jeu de la charreada, le sport national, qui va devenir le sport national, et qui est un jeu d'arène qui reproduit des scènes de l'élevage telles qui se déroulaient au 19e siècle. Alors, dans la pratique de la charreada, les cavaliers charros, qui sont en tout cas dans la hiérarchie pour la plupart issus de l'élite, de l'élite créole, vont privilégier un type de cheval qui est un cheval justement métis, mais un métis de luxe, c'est-à-dire un mélange, le cheval quarter de mille, le quarter horse américain, qui est un mélange de pur sang anglais et de cheval créole, justement, c'est-à-dire de cheval mexicain. On va aller très loin dans ce souci de naturaliser l'animal, d'en faire un animal américain. On va aller jusqu'à créer, dans les années 80 du XXe siècle, jusqu'à créer un cheval aztèque, ce qui est absolument, évidemment, historiquement une aberration, puisque les Aztèques ne connaissaient pas le cheval. Mais c'est la maison d'Omec, d'ailleurs, une maison andalouse, hein, qui va créer au Mexique le cheval dit aztèque, qui est le résultat d'un savant croisement entre cheval créole et chevaux andalous, enfin, et le cheval aztèque, prétendument, le discours du cheval aztèque, c'est le cheval idéal pour la charriada, et c'est le cheval qui se rapproche le plus du cheval de Cortés. C'est ce fantasme de Cortés est venu en Espagne la première fois, le premier voyage de Cortés avec 20 chevaux sur le bateau, 20 chevaux andalous, hein, et ce cheval-là qu'il s'agit de retrouver. Voilà. Donc, et ça, c'est le vrai cheval américain. Vous voyez comment l'idéologie arrive à construire des paradoxes pour finalement créer de l'identité. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ce souci d'associer le cheval créole, donc le cheval américain qui s'est adapté aux conditions d'élevage du continent américain, etc., et le cheval européen, bon, pur sang anglais, pur sang andalou, dans cette recherche de métissage dans l'élevage, eh bien, cette recherche correspond en fait de près aux stratégies matrimoniales des classes possédantes mexicaines, hein, qui sont associées à la charriade et à l'élevage de taureaux. J'ai pu voir des généalogies, j'ai pu étudier des généalogies où on voit bien qu'à chaque génération, hein, il y a à la fois une consanguinité très forte des mariages entre cousins germains qui se reproduisent à chaque génération. Et en même temps des apports extérieurs réguliers avec des étrangers valorisés, des Européens, surtout espagnols, anglais, écossais, allemands, italiens et des États-Unis. Donc à chaque génération jusqu'à aujourd'hui, on voit dans ces familles-là, ces familles d'éleveurs de grands domaines, on voit toujours une dualité en fait entre une forte consanguinité, c'est-à-dire une reproduction à l'andalouse, hein, en quelque sorte, où on se marie entre cousins, comme dans la vieille noblesse et tout ça, et des apports d'origine étrangère. Donc, si vous voulez, il y a une homologie entre les façons de concevoir l'animal, le cheval, et la façon de reproduire les familles. Alors là, c'est paradoxal, comme on voit comment on a un mélange, une combinaison de l'idéologie hispanique de la pureté et d'une idéologie du métissage. Ça va jusqu'à toute une série de paradoxes, hein, parce que dans la charriada, dans le monde de la charriada, le sport de la charriada est un sport d'homme. Ce sont des hommes, des éleveurs, des vaqueros, tout ça, les beaux chapeaux, les beaux habits, ça. Mais les femmes ont quand même leur place. Mais elles ont une place évidemment marginalisée, c'est très machiste comme milieu. Et surtout, elles ne font pas ce que font les hommes. Elles font, c'est la grande différence entre le rodéo nord-américain et une des grandes différences, et le rodéo mexicain qu'est la charriada, c'est que dans le rodéo américain, les femmes font la même chose que elles peuvent faire la même chose que les hommes, tandis que dans la charriada, c'est exclu. Les femmes, le rôle des femmes, c'est ce qu'on appelle l'escaramuza. L'escaramuza, c'est un ballet équestre, hein, où on a des jeunes filles nubiles, vêtues de robes longues dans un style européen et qui font des ballets, qui se livrent à des ballets équestres, qui n'ont pas du tout de contact avec le taureau. Là, il ne s'agit pas d'attraper les taureaux au lasso, tout ça, ils n'utilisent pas le lasso. Et d'ailleurs, elles sont sur une selle, sont montées sur une selle qui n'est pas la même, qui n'est pas la selle à pommeau qui permet de relier le lasso, comme je vous l'ai dit, pour attraper les bêtes, mais qui est une selle de type side saddle, de selle de côté, qui permet de monter en Amazon. Et donc les filles doivent monter en Amazon. Et ce sont des filles nubiles, c'est des jeunes filles de 15 à 20 ans maximum, qui arrêtent de pratiquer le plus souvent quand elles se marient. On considère que la pratique de l'escaramouche est incompatible avec l'enfantement. Et la selle elle-même, la selle des jeunes filles, qui est censée garantir leur pureté, parce qu'au Mexique, finalement, dans ce milieu-là de l'élite, s'est maintenue une vieille croyance que la monte à califourchon était dangereuse pour les femmes, parce qu'elle menaçait leur hymen. En même temps, elle pouvait conduire à une infertilité, enfin, toute une série de croyances qu'il y avait autrefois, mais qui s'est maintenue dans le milieu de la charreada. La femme ne doit pas monter en califourchon, c'est très inconvenant, c'est très incorrect. Et les femmes montent, les filles, elles montent sur la selle de côté, elles montent en Amazon, sur une selle que l'on appelle la albarda, et la albarda, en espagnol, ça veut dire le bas. Et donc, on retrouve cette origine, finalement, de la selle à bas, à partir du bas, cette origine mexicaine de la selle, mais seulement pour la selle des femmes. Et l'albarda, le bas, c'est quand même ce qui permet de charger la mule ou l'âne, c'est-à-dire un sous-cheval ou un cheval hybride. Donc un animal hybride, un animal métis, au sens ignoble du terme. La mule, c'est l'animal de... La mule et l'âne sont les animaux des Indiens. Il y a un dicton charro, qui est d'un humanisme absolu et qui dit l'âne pour l'Indien, la mule pour le mulâtre et le cheval pour le caballero. Et c'est l'idéologie char. On sépare les catégories sociales selon les catégories animales. La mule, chez les Indiens Huichol d'aujourd'hui, qui se sont convertis à l'élevage depuis le XVIIIe siècle, et chez lesquels le taureau est devenu un animal majeur, parce que c'est le principal animal du sacrifice, chez les Indiens Huichol, la mule est l'équidé majeur. Parce que sur les terrains montagneux où vivent les Indiens Huichol, dans la Sierra Huichol, il vaut mieux avoir une mule, une bonne mule, qu'un cheval, beaucoup moins efficace sur ces terrains accidentés. Et la mule a une véritable... une valeur très forte. Et là, ici, dans la charreada, ce qui est associé à la mule, ce qui est associé à l'âne, finalement, c'est la selle, l'albarda, qui en quelque sorte permet, assure symboliquement la défense de l'intégrité, de la vertu des jeunes filles de bonne famille prêtes à marier, que sont les escaramuzas.
Le bistrot des ethnologues. Mardi 5 janvier 2010, l'ARCE, l'atelier de recherche comparative en ethnologie, recevait Frédéric Sommad au Baloir. Ce professeur à l'Université de Provence est venu nous présenter son dernier ouvrage intitulé Machati, les transformations mexicaines des jeux taurins. Frédéric Sommad nous en fait l'exposé dans ce bistrot des ethnologues.
Alors, donc ces idéologies du métissage et en même temps ces idéologies du métissage qui confondent un petit peu, qui confondent la raison puriste classique occidentale et en particulier hispanique et qui fait que longtemps dans les études des Indiens d'Amérique en général, on a privilégié en ethnologie une position un petit peu puriste, justement influencée par cette idéologie. la position de l'indigénisme, en quelque sorte. Chercher l'Indien, quoi. Hein. Et le Mexique apparaît de ce point de vue-là comme une terre très problématique, parce que c'est à la fois le laboratoire du métissage. Hein, dès les premiers temps de la conquête, on a affaire au métissage. Cortés lui-même, hein, qui avait pris une interprète que les Espagnols avaient appelée Doña Marina, qui s'appelait la Malinche, hein, et qui était sa maîtresse, il l'a engrossée et il a ouvert la voie au métissage, en quelque sorte. Les Mexicains d'aujourd'hui disent encore, c'est aussi un dicton mexicain, « Somos todos hijos de la chinga », nous sommes tous les fils de la chingada. La chingada, c'est un terme mexicain, mexicano-mexicain, qui signifie à la fois la pute, la salope, la métisse, la dévergondée, toutes sortes de choses. Et chinga, en même temps, c'est un terme admiratif. Mais c'est d'abord la Malinche. C'est cette indienne, hein, qui s'est donnée à Cortés et qui a donné à Cortés des enfants. Et donc c'est cette idée que nous sommes tous les produits de cet accouplement. Et donc c'est à la fois ça, donc c'est de ce point de vue-là, du point de vue du purisme, c'est une terre impure par excellence, c'est une terre métisse. Hein, et en même temps, c'est le Mexique qui aujourd'hui encore compte une cinquantaine de groupes linguistiques toujours observables. Qui en comptait presque 200, je crois, au moment de la conquête. Mais donc cette fascination de l'ethnologue pour le vrai indien, on va dire, bon, mais, ouais, tout est métissé, c'est pas bien et tout, il faut aller chercher le vrai indien, il y a des groupes linguistiques, mais on a toujours l'intégrité de ces groupes ethniques indigènes qui est menacée par le métissage. Alors là, il y a problème. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher quand on va aller étudier les Indiens, c'est on va chercher la vraie tradition des Indiens. Alors il faut essayer de mettre de côté ce qui est trop fortement ibérique. Alors ce qui est trop fortement ibérique, c'est le taureau et le cheval, par exemple. Ça, c'est le truc, c'est un peu gênant. Par contre, la religion, alors je sais pas pourquoi. Mais toujours, l'ethnologie classique, hein, fait grand cas des rites religieux chrétiens transformés par les Indiens. On va faire valoir la pureté du carnaval, d'un carnaval chez les Otomis, par exemple, parce qu'il est pratiqué à l'ancienne, et puis la dégradation de la fête aujourd'hui, parce que finalement, l'américanisation, on voit le carnaval qui s'américanise avec l'influence de l'émigration, de l'argent, etc. Et tout se perd. Et vous voyez, mon pauvre monsieur. La semaine sainte, considérée comme un point culminant chez les Huichols, par exemple, dans l'ouest du Mexique, les grands spécialistes des Huichols intègrent la semaine sainte, hein, dans le cycle rituel du costumbre, de ce que les Huichols appellent le costumbre, c'est-à-dire le cycle festif qui correspond à la célébration de la cosmogonie Huichol. Alors, la semaine sainte, c'est quand même paradoxal. Bon, il faut dire que la semaine sainte des Huichol est spéciale. Hein. J'ai compté jusqu'à une quarantaine de bœufs sacrifiés le samedi saint devant l'église de San Andrés Coamiata, où j'ai enquêté. Et ensuite, les statues des saints et des Christs, parce qu'il y a deux Christs, hein. Il y a masculin et féminin, donc la dualité mexicaine qui est reproduite à travers le Christ. Et on badigeonne du sang des taureaux les statues des saints. Donc, bon, c'est, je ne crois pas que ça plairait beaucoup à notre ami, comment il s'appelle déjà, Benoît XVI. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est le costume. Ça, c'est pas un problème. C'est curieux. Pourquoi ? C'est plus noble, on dirait. On dirait qu'il y a quelque chose de plus noble, parce que c'est la religion. Parce que, donc, bon, voilà. Mais le taureau, non, ça, c'est un truc, ça va pas, quoi. On a mis beaucoup de temps à considérer que le bœuf était important chez les Huichols, avec quelque chose de Huichol, justement, bien que ce soit d'origine hispanique. Alors il y a ça. Et puis quand les mêmes Huichols organisent une fête patronale, et que dans cette fête patronale qui n'est pas considéré comme partie du costumbre, je ne sais pas pourquoi, la fête patronale, non, c'est pas le costumbre, parce que, pourquoi ? Parce qu'ils font comme les Blancs. Enfin, ils font comme les métis. Ils imitent les métis. Ils font une fête, alors ils font un bal, ils font la couronnement de la reine. C'est sûr, c'est à voir. Et ils font une charreada. À leur façon, hein, ils font une charreada et ils invitent tous les métis des environs à participer à leur charreada. Ils imitent la charreada et ils se servent en quelque sorte de leurs voisins métis, de tous les fermiers métis qui sont autour d'eux et pour faire finalement un jeu de charreada. Et ce personnage du charro est devenu partie du folklore des Huichol. Il est entré dans leur folklore et la cosmogonie parce que précisément le charro c'est le voisin et le voisin Teiwari en Wirarika, en idiom Huichol, Teiwari, le voisin, c'est un personnage qui est à la fois craint et en même temps qui fascine parce que c'est le voisin, le Teiwari assimilé au blanc, au monde occidental en général, c'est l'argent, il incarne l'argent, il incarne le bétail, le beau bétail, parce que le bétail des voisins est plus beau que le nôtre, le Huichol, parce que le nôtre il est maigre et tout ça, les voisins ils ont des beaux bétails, ils ont du bétail charro, et le charro est devenu, le personnage du charro est devenu dans certaines parties de la Sierra Huichol est devenu un thème folklorique important. C'est un véritable décepteur, ce qu'on appelle un trickster, un décepteur. C'est un personnage qui est à la fois maléfique et bénéfique, une espèce de lutin, un elfe, un personnage incontrôlable et qui est associé aux puissances extérieures qu'il faut différencie les Huichol du monde extérieur, mais en même temps que les Huichol aspirent à intégrer en leur sein parce qu'ils en ont besoin pour renouveler l'énergie de la société. Et donc de la même façon qu'on adopte l'élevage pour sacrifier des taureaux aux divinités Huichol, on adopte la charreada à la façon Huichol et on attire les Teiwari, les voisins d'à côté, les charros, qui sont toujours associés, qui sont toujours des paysans qui pratiquent la charreada, qui sont d'une manière très, très modeste, hein, pas du tout comme les riches des villes qui font la charreada, mais ils ont de tradition de charre, hein, c'est des vaqueros, et ils viennent animer la charreada au village, et au village des Huichol, et pour se faire, ils payent, et les Huichol les font payer. Et pourquoi ils payent ? Eh bien, ils payent pour payer de leur personne. C'est une manière de, en même temps d'entretenir leur prestige que de venir payer pour participer à la charreada des Huichol. Ils payent aussi pour le couronnement de la reine. C'est toujours à des Teiwari qu'on demande de couronner la reine. Et ils payent des sommes considérables. Il y a beaucoup d'argent qui arrive et c'est les voisins, les Teiwari, qui viennent apporter de l'argent pour la fête Huichol. Et là, j'ai vu circuler des grosses coupures là, de 500 pesos, mais de tous les côtés, et essentiellement apportées par des Blancs. J'ai vu une chose extraordinaire également, c'est qu'il y a eu une lutte de prestige qui s'est jouée autour du rodéo, hein, entre les deux candidats aux élections de la municipalité de Mesquitic, qui est un village de 1500 habitants, mais qui est un village métis de charros, qui a la tutelle administrative de trois communautés indigènes Huichol des alentours, et donc l'élection dans cette municipalité là dans la commune, 70% de la population est Huichol. Les Huichol y votent et ils votent, c'est un peu comme en Corse, hein, c'est les villages entiers qui votent pour un même candidat, c'est les chefs de lignage qui décident pour qui ils vont voter, et évidemment c'est ceux qui auront le plus payé leur personne dans la Sierra qui vont emporter l'élection. Et donc on voit chaque fois les candidats métis qui viennent faire campagne dans la Sierra. Et la meilleure façon de faire campagne, c'est de payer. Et là, en l'occurrence, il y avait la lutte entre deux candidats des deux principaux partis mexicains, la droite et la soi-disant gauche. Il y en a un qui a payé le couronnement de la reine, il a donné 4000 pesos, $350, le salaire moyen d'un ouvrier, hein, salaire mensuel, pour couronner la reine, tandis que son concurrent, qui est un charro, briller dans l'arène, hein, pendant la charreada Huichol, briller dans l'arène, à coût de 1000 pesos. Chaque fois, il donnait 1000 pesos pour passer, et avec un superbe cheval, chaque fois, il se livrait à un seul jeu de la charreada, qui est le coleo, où on poursuit un taurillon à cheval pour le renverser en tirant sur sa queue. Et là, c'était le plus brillant dans l'épreuve. Et donc, il y a eu cette lutte de prestige entre l'un qui a couronné la reine, qui payait à boire à tout le monde, et l'autre qui, du haut de son cheval, faisait briller ses armoiries tout en payant chaque fois pour passer. Et tout ça, ça fait des sommes d'argent considérables. Et l'argent, comme le bétail, finalement, cette tradition indigène est étrange parce qu'elle renvoie finalement aux origines presque étymologiques du bétail, hein, du pécum, hein, le pécunier, hein, le bétail c'est l'argent, et le bétail, le sacrifice du bétail, et le fait que les Huichols passent leur année à sacrifier, à faire des pèlerinages, à dépenser beaucoup d'argent parce que ils sont constamment poursuivis par des obligations tyranniques de leur divinité, et dont les ordres sont donnés par les chamans, hein, à travers les chamans, les sages, la communauté, et qui disent il faut que tu ailles sacrifier 2 taureaux à la semaine sainte, il faut que tu ailles en pèlerinage à tel endroit, et tout ça. Pendant ce temps, le gars il travaille pas, il dépense de l'argent, et tout ça. Et donc il y a toute une théorie de la dépense, hein, il faut dépenser, il faut sacrifier pour être Huichol. Et donc on a besoin de l'argent des blancs pour que l'univers Huichol, de l'argent et du bétail, hein, que l'univers Huichol continue d'exister. Ça va très loin, puisque dans ce cas-là, les Huichols sont persuadés que il n'y a pas plus ethnocentrique, hein, que les Indiens d'Amérique, je crois, mais les Huichols, en l'occurrence, sont persuadés que c'est leur rite qui permet non seulement la continuité du monde Huichol, mais la continuité du monde tout entier. Hein, que c'est eux qui font pleuvoir, etc. Donc, ils sont persuadés de l'importance de leur action, et dans cette action de première importance, l'animal, le taureau en l'occurrence, est au centre de tout. Voilà. Alors donc si vous voulez, c'est cette fascination ancestrale pour l'étranger et pour les signes de l'étrangeté. Donc je vous ai fait la généalogie très rapidement, mais si vous voulez des détails, évidemment, vous avez un livre, là, vous pouvez l'acheter, je crois, etc. Bon. Vous pouvez le lire, le détail, mais de mon analyse. Mais il y a une fascination pour l'étrangeté qui remonte au temps préhispanique, hein, et qui fait que les Indiens ont pu intégrer le métissage, ils ont pu intégrer les animaux hispaniques, européens, ils ont pu intégrer la religion chrétienne même, et la transformer. Chaque fois, tout est transformé. Hein. Mais en faire, non pas subir une acculturation, non pas subir une déperdition d'identité, comme le voudrait la théorie puriste ethnologique, en disant ouais, ils sont métissés, ils sont plus comme avant, c'est pas... Non, au contraire, cette intégration du métissage, cette intégration de l'altérité suppose une capacité justement de s'accaparer l'altérité dans un univers propre. Et donc cela tient à des propriétés de culture mésoaméricaine qui sont des cultures de la superposition, qui sont des cultures de l'amalgame, qui sont des cultures de l'hybridation. Déjà, avant que les Espagnols arrivent, hein, tous les ethno-archéologues et les ethno-historiens confirment, hein, que les cosmogonies préhispaniques sont caractérisées par l'hybridation, par la transformation, hein, le nahualisme par exemple, hein, qui est la transformation d'un homme d'un individu en animal. Chaque individu a son nahual et sa capacité de se transformer pour faire le bien ou le mal selon les cas, sous sa forme animale. Et cette capacité à conjoindre les éléments en opposition, c'est le dualisme mexicain, mais qui s'oppose au dualisme occidental. Vous savez, Descola, dans son dernier livre, il parle beaucoup du dualisme occidental. Lui, qui est un grand américaniste, par ailleurs, n'ignore pas que, évidemment, que le dualisme occidental est exclusif. C'est le purisme occidental. Il oppose l'un et l'autre, soit dans le manichéisme, soit dans une construction manichéenne, l'un contre l'autre, soit dans la dialectique, où c'est l'association de l'un et de l'autre qui permet de retrouver une nouvelle unité, en quelque sorte. C'est le dépassement de la dualité vers l'unité. Et il y a toujours cette nécessité de dépasser la dualité, soit par le rejet de l'altérité, soit par la conjonction et la synthèse de l'altérité de l'identité pour une nouvelle unité. Mais au Mexique, c'est pas ça. Dans le Mexique indigène, c'est le maintien de la dualité. Au contraire, c'est l'organisation dualiste elle-même, mais qui est un dualisme inclusif, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont inclus dans une figure duale. Et donc, la fascination ancestrale pour l'étranger et ses signes, que l'on va absorber par le mimétisme, on va imiter le blanc, on va imiter le métis, on va copier ses rites. Là, je vous renvoie aussi, pour l'Amérique du Nord, aux passionnants travaux de l'historien Gilles Avard, sur l'Amérique française, où il y a toute une analyse du mimétisme des Indiens par rapport aux Français. C'est en même temps la nécessité d'absorber ce qui est extérieur à l'univers de la tribu, par la chasse, par la guerre rituelle, par le sacrifice et par l'adoption de la du guerrier captif, mais aussi du gibier que l'on capture. Et donc c'est un système de transformation, en fait, dans lequel le bœuf et le cheval vont être intégrés et qui va permettre l'adoption de ces animaux, mais l'adoption par transformation. C'est-à-dire, c'est pas une adoption c'est pas, encore une fois, une acculturation. C'est pas des Indiens qui vont, ou les indigènes au sens j'inclus les métis là-dedans, parce que finalement les communautés métisses font à peu près la même chose. C'est pas une acculturation, c'est une vampirisation plutôt. On va chercher l'altérité pour la transformer, la ramener à soi-même et en faire une composante de sa propre culture. Tout cela était déjà, il y avait déjà, comme disait Lévi-Strauss quelque part, il y avait déjà une place qui était prévue pour les blancs et le monde blanc dans le monde indigène. Et là-dessus, je crois que le cas du taureau et du cheval, que ce soit à travers les jeux d'arène, la charreada, le jaripeo, dont je fais état dans cet ouvrage-là, mais aussi à travers les formes mimétiques de jeux d'arène, qui sont les danses de toritos, que j'étudie également dans le même ouvrage, où ce sont dans les communautés indigènes, on voit au cours des fêtes de carnaval ou des fêtes patronales, on voit des Indiens se livrer à des corridas parodiques à partir d'animaux de figurines taurines qui sont portées par des porteurs qui figurent la charge des taureaux. Donc il y a toujours cette obsession à la fois de l'animal hispanique, du blanc, le masque du blanc que l'on revêt dans les carnavals, le blanc, le propriétaire, tout ce qui incarne le pouvoir hispanique, qui est intégré dans la fête indigène comme une nécessité de s'accaparer l'altérité pour en faire précisément les principes de l'identité.
C'était le bistrot des ethnologues. Cette émission vous a été proposée par l'ARCE et mise en onde par Divergence FM. Prise de son, montage, Pascal Roulier pour Divergence FM.